Blaise van der Linden a décidé de faire un point sur les dernières annonces concernant la politique étrangère pour cette année 2025 de l'Union européenne. Et cette analyse en compagnie d'Alberto Toscano, journaliste spécialiste de l'Union européenne.
Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour.
Lundi, lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a déclaré qu'elle allait donner un coup de pouce à l'économie syrienne et aider le pays à se remettre sur pied. En parallèle, il y aura une intensification de l'aide humanitaire et des efforts de reconstruction. Alberto Toscano, doit-on voir avec ces décisions une marque de confiance au nouveau pouvoir syrien?
Oui, une ouverture de crédit. C'est dirigeant syrien dont les attitudes politiques et d'extrémisme religieux islamique provoquent bien des perplexités en Europe. Toutefois, on doit remarquer que certains des premiers pas de ces nouvelles autorités de syriennes ont été quand même conciliantes vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Et plusieurs ministres des Affaires étrangères européens ont été à Damas. Et le dialogue existe. Et par le temps qui court, c'est mieux ne pas fermer les portes au dialogue. Et donc, l'ouverture de crédit au niveau des dirigeants syriens est une donnée pour le moment évidente. Encore faut-il que ce dialogue puisse être conduit de façon loyale des deux côtés, et dont on verra ce que le nouveau dirigeant syrien sera capable de faire pour remplir pour tenir leurs promesses vis-à-vis des pays européens.
Alors, les ministres des Affaires étrangères ont également discuté du cessez-le-feu à Gaza, au Liban. Ils ont également parlé de l'Iran. Quelle est la position de l'Union européenne? On le sait, hein, Kaya Kallas s'est félicité du fait que le cessez-le-feu tenait, mais qu'il était fragile. Où se place l'Union européenne?
Là, c'est une logique traditionnelle de condamner le terrorisme et en même temps espérer qu'un jour ou l'autre ça soit possible arriver à deux États, un État palestinien donc qui puisse exister et reconnaître la sécurité d'Israël. Ce n'est pas simple, surtout par les temps qui courent, surtout après le 7 octobre qui a montré l'existence d'un mouvement terroriste tel que Hamas, prêt à tout pour empêcher l'existence de deux États, prêt à tout pour nier par les faits et par le sang le droit d'Israël à exister. Donc, la situation est encore plus compliquée parce que l'Union européenne, au-delà de cette affirmation de principe sur les deux États, est très divisée à son intérieur. Il y a des pays comme l'Irlande, comme l'Espagne, qui ont une position pro-palestinienne qui frôle l'idée même de fermer les yeux sur les dérapages criminels du Hamas. Et de l'autre côté, il y a des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, qui souligne systématiquement le droit d'Israël à vivre dans la sécurité. Et sécurité, aujourd'hui, signifie ne pas avoir de voisins qui pratiquent des choix terroristes, à la fois le Hezbollah au Liban et Hamas à Gaza. Donc, cette Union européenne divisée est un ensemble de pays rendus impuissants justement par ces divisions.
Oui, vous avez évoqué le Liban, Alberto Toscano. La chef de la diplomatie européenne a mentionné l'allocation de 60 millions d'euros pour les forces armées libanaises et l'organisation d'un conseil d'association Union européenne-Liban au cours de cette année. L'Union européenne a-t-elle un rôle à jouer justement dans le démantèlement du Hezbollah au Liban?
D'accord, qui a beaucoup à jouer un rôle au Liban, la France, puissance qui a eu dans le passé des grandes responsabilités à Beyrouth et qui veut encore aujourd'hui, par la voix et les initiatives du président Macron, continuer à être un point de référence stable par la politique libanaise. Encore faut-il être capable de résoudre les problèmes antérieur aux Libanais. Il est fait notamment que le tiers libanais sont aujourd'hui en difficulté, déjà un mouvement chiite qui n'est pas seulement un mouvement politique, c'est aussi un mouvement militaire. Les Hezbollah ne sont pas que un parti politique, ils sont surtout une armée à l'intérieur d'un pays indépendant, mais une armée différente par rapport à l'armée libanaise. Une armée qui met en difficulté l'armée libanaise. Alors, une conséquence des confrontations militaires qui ont eu pendant les derniers mois entre Israël et le Hezbollah et la difficulté des Hezbollah à continuer à garder son rôle d'État dans l'État au Liban. Est-ce qu'à l'avenir, Hezbollah pourra récupérer sa force? Difficile à dire. D'un côté, parce que l'Union européenne unie sur ce dossier, et en particulier la France, veulent empêcher au Hezbollah de redevenir ce qu'il a été pendant des années, en empêchant au Liban d'être réellement un pays indépendant, d'être réellement un pays libre, d'être réellement un pays démocratique. De l'autre côté, il y a le rôle de l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran est certainement en difficulté, en politique intérieure et en politique étrangère. Mais on a du mal à mesurer ces difficultés de l'Iran, et en particulier, on se pose des questions sur ce que les États-Unis de Donald Trump feront vis-à-vis de la question iranienne.
Alors, autre conflit hein, qui préoccupe et qui occupe l'Union européenne, c'est le conflit, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. On a vu hein, depuis l'élection de Donald Trump une sorte de front européen pour contrer justement les États-Unis de Donald Trump. Pourtant, on a l'impression que sur le sujet de la guerre en Russie, les États-Unis et l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde. Ils sont d'accord, ils vont contrer le pouvoir de Vladimir Poutine.
Bon, sur ça, il y a vraiment encore beaucoup de points d'interrogation. Sans doute, ils sont d'accord sur le fait que la Russie de Vladimir Poutine est l'agresseur dans l'actuel conflit en Ukraine. Mais il y a des accents bien différents aujourd'hui entre les nouvelles autorités de Washington et les pays et plusieurs pays européens, en particulier ceux qui sont plus engagés dans le soutien à l'indépendance de Kiev. Et je parle en particulier de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et en général de pays de l'ex-Union soviétique, le pays à la sphère baltique. Il y a des différents accents, je disais, entre les Américains et les pays européens plus engagés, et surtout, il y a des points à régler au sujet de l'engagement économique, parce que ça suffit pas de parler de solidarité. Il faut la montrer tous les jours, et cette solidarité a un prix. Et ce prix, ça compte un milliard d'euros, un milliard de dollars. Et les Européennes ont contribué, sans doute, mais leur contribution a été jusque-là largement inférieure par rapport à la contribution des États-Unis. Et on sait très bien que la nouvelle administration américaine fait beaucoup d'attention à l'argent. De son point de vue, La politique est quelque part au service de l'économie. Donc, les jeux sont encore très ouverts et on a la sensation que le président Trump n'a pas encore joué toutes ses cartes. Il n'a pas encore vraiment clarifié la stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la question ukrainienne. Il y a évidemment une solidarité américaine vis-à-vis de l'Ukraine, mais jusqu'où cette solidarité ira sous la nouvelle administration américaine, ça est à voir.
Et ça nous fera des sujets de discussion tout au long de cette année 2025. Alberto Toscano, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur 20 du Judaïka.